Bonjour et bienvenue en fait à tous sur cette formation Windows 2012 R2 pour les administrateurs Linux avec démo. Je m'appelle Cédric Gauthier, je suis formateur certifié chez Global Knowledge France. Je dispense des cours sur Windows, de Windows 2000 à 2012 R2. Je suis également formateur sur la gamme System Center, ancienne génération, nouvelle génération. Je dispense également les cours de cloud privé avec la gamme System Center 2012. Et je délivre tous les cours en fait sur la virtualisation avec Microsoft, virtualisation de serveurs, virtualisation de présentation, virtualisation d'applications et virtualisation de postes de travail. Après cette présentation technique, vous avez la possibilité éventuellement de suivre un cours en salle de cours sur la gestion d'un environnement Microsoft pour les administrateurs Linux, donc ciblé réellement sur des besoins particuliers. Nous avons déjà vu la partie licensing. Ce qui va nous intéresser ici maintenant que nous avons choisi le bon mode de licence, c'est quel type d'installation nous allons utiliser entre un mode core, un mode graphique ou un mode interface minimale. L'administration de notre serveur et comment peut-on réussir à automatiser nos installations ici avec la partie Windows, avec les outils gamme Windows. Dans les types d'installation, trois grands types d'installation, même si éventuellement on peut en rajouter un quatrième. Le mode core, l'installation, le mode d'installation par défaut. Installation plus sûre, puisqu'il n'y a pas tout ce qui est interface graphique. Donc ici, non seulement c'est plus sûr, moins sujet à problèmes, à virus, ainsi de suite, mais également consomme beaucoup moins de ressources. Un mode core, c'est une ligne de commande. Ce qui veut dire, c'est si je veux l'administrer, c'est soit je passe directement sur le serveur mode core, soit à distance, je passerai par le gestionnaire de serveur. Et surtout pas, à distance, j'utiliserai le bureau à distance. Le bureau à distance d'un mode core, ce sera un mode core, même si on pourrait l'activer. Un mode core est configurable, on le verra tout à l'heure, nativement initialement, soit par deux outils, soit en passant par PowerShell, qui va me permettre ici de paramétrer le réseau, de rajouter toute une série de technologies, soit par la commande sconfig. La commande sconfig qui me permettra de joindre la machine à un domaine, de changer le nom de la machine, de configurer l'administration à distance éventuellement si je veux appartenir à un domaine et faire de l'admin à distance, de changer le IP, de faire tous les paramétrages possibles et imaginables. L'installation graphique, qui est une installation en fait qui va faciliter, on va dire, la configuration initiale de mon serveur, puisque je vais bénéficier de tous les assistants disponibles au sein du système. Et également, tout simplement, sur un serveur, j'ai envie d'ajouter un rôle, le rôle DHCP par exemple. Bah, rajouter le rôle DHCP en mode core, je vais être obligé de passer par une ligne de commande de type install-windows feature en PowerShell. Graphiquement, j'irai cocher la case, j'installe. L'avantage de pouvoir passer en mode graphique ici, c'est que du mode graphique, je peux repasser en mode core. Du mode core, je peux passer en mode graphique également. Troisième mode que nous avons ici, mode serveur avec interface minimale. Alors, ce mode serveur n'est pas sélectionnable durant l'installation. Celui-ci ne peut être mis en place qu'après l'installation d'un mode core ou d'un mode graphique. Ici, un serveur en mode interface minimale est un serveur dans lequel nous aurons accès au gestionnaire de serveur, nous aurons accès aux consoles MMC et nous aurons certains applets du panneau de configuration. Par contre, un serveur avec interface minimale n'aura pas en fait de bureau, n'aura pas d'Internet Explorer, n'aura pas d'explorateur Windows. Tous ces éléments-là ne sont pas fournis. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment en fait sur un niveau central entre les deux composants. Un petit récapitulatif des différentes possibilités en fait en fonction du mode d'interface. Avec ici, en fait, sur ce récapitulatif, on voit apparaître un quatrième, en fait, mode d'installation. Le quatrième mode, en fait, ici, c'est surtout après l'interface graphique. J'aimerais, pourquoi pas, avoir un serveur Windows, mais j'ai besoin, dans Internet Explorer, d'avoir le composant Flash Player. Bah, sur un serveur Windows 2012, 2012 R2, il est impossible d'installer Flash Player. Flash Player est inclus dans Internet Explorer. Pour en bénéficier, il faut sur mon serveur que je rajoute l'expérience utilisateur. Grâce à cette expérience, je bénéficierai du Flash Player, je bénéficierai de Media Player, et ainsi de suite. En fait, j'aurai un serveur Windows qui sera l'équivalent schématiquement, on va dire, d'un poste client Windows 8.1, pourquoi pas. D'accord ? Donc, j'aurai la possibilité de mettre des thèmes, d'avoir l'accès aux applications modernes UI, par exemple. J'ai un système, je l'ai installé en mode core, je vais le passer en mode graphique, j'ai installé en mode graphique, je veux le passer en mode interface minimale. Comment peut-on réussir à faire ça? L'évolution core vers graphique peut se faire de deux façons. soit je le fais en PowerShell. En PowerShell, en utilisant une commande qui s'appelle install-windows-feature. Oui, mais de façon PowerShell, pourquoi pas, mais quelle autre façon alors que je suis sur un serveur core? Ben, il suffit tout simplement éventuellement que ce serveur core soit administré à distance à partir d'une machine qui a le gestionnaire de serveur. Puisque le gestionnaire de serveur Windows 2012 R2 permet non seulement de voir les autres serveurs, mais permet de rajouter ou de désinstaller des rôles et fonctionnalités. Donc on va la voir juste après, cette fonctionnalité. L'évolution graphique vers Core, bah elle se fait par une désinstallation d'une fonctionnalité, tout simplement. Également, on passera sur ce composant pour passer ici, en fait, sur l'interface minimale. Le passage en mode interface minimale, on a deux possibilités. Sur un Core, on va installer une fonctionnalité Windows en faisant un install-windows-feature server-gui-management-infra server-gu-shell. On demande à redémarrer. Et de l'autre côté, en fait, ce que je ferai juste après en démo, on pourra décocher une case, tout simplement. Comment réussir à faire ces composants? Passer d'un corps à un graphique. Ben pour cela, nous avons un serveur core ici. Avant de passer d'un serveur core à un mode graphique ici, ben ce serveur, je vois très simplement, hein, je vais me mettre en plein écran, qu'il n'a pas grand-chose. D'accord? Ce serveur ici, ce qu'il faut éviter de faire, c'est pourquoi pas de fermer l'invite de commande. Invite de commande fermé, comment je fais? Ben soit je demande à faire une connexion, soit également dans mon gestionnaire de tâches, ici, je vais pouvoir demander à exécuter une tâche qui sera attachée AMD. Donc je reviens tout simplement à mon composant. Je suis ici, je veux administrer. Avant encore une fois de faire mon installation de mon composant, je veux administrer, j'ai la commande sconfig. Depuis cette commande sconfig, je vois toute la configuration de machine avec la gestion domaine ou groupe de travail, le nom d'ordinateur, l'ajout d'un administrateur local, la configuration d'administrateur en distance, tous les composants, encore une fois. Par contre ici, nulle part on ne voit apparaître hein, l'ajout en fait d'une nouvelle fonctionnalité. Je veux ajouter une fonctionnalité, donc ici je vais quitter le mode sconfig. Je vais aller dans PowerShell. PowerShell. On le tape encore correctement, ça va mieux. Et ici, je vais pouvoir utiliser en fait une fonction PowerShell qui s'appelle install-windows-feature. Alors ici, comme je vais installer une fonctionnalité Windows, il est très important au préalable d'avoir chargé sur la machine un DVD et surtout d'avoir également extrait en fait du fichier WIM d'installation, l'avoir extrait sur disque dur. Ici, sur la machine sur laquelle nous sommes, dans un dossier qui s'appelle montage, s'il veut bien me le fournir, dans ce dossier, nous avons l'équivalent de l'installation. Donc si je veux en fait installer mon interface graphique, je vais tout simplement aller chercher ma ligne de commande. Et ici, hop, je la prends. Et je vais pouvoir aller dans ma machine virtuelle, dans la machine virtuelle en mode core. Ici, je vais demander à taper le texte du presse-papier. Donc ici, j'ai bien la fonction qui s'appelle install-windows-feature. Je vais demander à inclure toutes les sous-fonctionnalités de l'ajout de l'interface utilisateur. Par contre, ici, je dois lui mettre une source. Hein. La source, c'est où trouve-t-on les informations d'installation pour Windows. Quand j'appuie sur Entrée, j'ai la collecte d'informations, il va m'installer le composant, puis après coup, en fait, j'aurai la possibilité de redémarrer ma machine, tout simplement. L'installation en prend un peu de temps. Pendant que cette installation se réalise, bah ici, ce que j'aimerais, c'est que je passe en fait d'un serveur core à un serveur graphique. J'aimerais passer, pourquoi pas, d'un serveur graphique à un serveur avec interface minimale. Afin, après coup, pourquoi pas, bah de voir les différences de fonctionnalités que je vais rencontrer dans mes deux environnements. Pour ça, pour cela, nous allons passer sur la machine sur laquelle tout à l'heure j'ai mis un numéro de série. Dans cette machine, donc j'ai accès directement à mon gestionnaire de serveur. Dans ce gestionnaire de serveur ici, j'ai les composants de mon serveur local, un peu comme tout à l'heure la commande sconfig, avec la possibilité de faire tous mes paramétrages sur mon serveur, avec par exemple un petit composant, hein, la configuration de la sécurité renforcée d'Internet Explorer, on la trouve ici. Sur cette machine, je veux désinstaller un rôle. Pour désinstaller un rôle, dans la partie gestion, je vais demander à supprimer des rôles et des fonctionnalités. Je vais supprimer un rôle. Le rôle que je vais supprimer ici, je vais le supprimer sur mon serveur actuel. Suivant. Ce n'est pas un rôle. L'interface graphique, c'est une fonctionnalité. Et dans les fonctionnalités ici, je vais trouver interface utilisateur et d'infrastructure. Nous avons ici outil infrastructure de gestion graphique. C'est justement l'interface minimale. Et nous avons le shell graphique qui correspond à tout ce qui est bureau, Internet Explorer, explorateur de fichiers, ainsi de suite. Je veux passer d'un mode graphique à un mode interface minimale. Ben, cette fois-ci, je viens décocher cette case. J'aurais très bien pu utiliser la même une commande PowerShell comme tout à l'heure pour installer, une commande de type uninstall-windows feature. Je désinstalle. Je vais demander à redémarrer automatiquement mon serveur à la fin. Et je demande la suppression. La suppression est en cours de route. On va aller voir où en est notre serveur. Donc, notre deuxième serveur est en train de faire l'installation. Donc ici, on a un petit peu d'installation, donc ça prend 2-3 minutes quand même, il faut laisser faire. Donc on passe d'un corps à un mode graphique, d'un graphique à un mode interface minimale. Autre installation possible, éventuellement, pendant que ces deux éléments tournent, j'ai un serveur sur lequel je requiers Flash Player. J'ai un site web qui me dit « tu dois utiliser Flash Player ». Pourquoi pas ? Ce n'est pas la peine d'essayer de télécharger Flash Player sur Internet, vous ne pourrez jamais l'installer, le système vous dira « il est déjà disponible ». Bah, Flash Player, nous allons le trouver tout simplement. Si je viens sur une troisième machine virtuelle, ici, si je viens dans mon gestionnaire de serveur, la mise en place de Flash Player passe par la mise en place de l'expérience utilisateur. Donc le temps que la console démarre. Et tant que ça démarre, nous allons aller voir où nous en sommes. 68% ici. La suppression de la fonctionnalité est en train de se faire. Ah, je suis sur mon contrôleur domaine. Donc ici, si je veux éventuellement l'expérience utilisateur, bah dans ce cas-là, j'ajoute des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Je vais installer, faire une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité sur la machine nommée DC2012. Ce n'est pas un rôle, c'est une fonctionnalité. Et dans les fonctionnalités ici, nous avons l'interface utilisateur. Je veux avoir du Flash Player. J'installe l'expérience utilisateur. Ici, en fait, ça va me permettre également, pourquoi pas, d'avoir un serveur qui aura toute une série de composants au même titre qu'un poste client. Donc, je ne vais pas l'installer sur celui-ci. Je n'en ai pas besoin. Alors, mes installations n'ont pas évolué. Alors, je reviendrai après sur les installations. Je vais laisser finir, en fait, ces installations. Donc là, en fait, on voit les différentes méthodes d'installation. Vous voyez que ça prend un peu de temps. Bon, je suis sur la machine virtuelle ici, avec ma machine, avec mon portable. Pendant que ça s'installe, je vais continuer pour aller faire ici. En fait, j'ai mon système que j'ai installé. Ce système, j'aimerais l'administrer. Comment peut-on réussir à administrer correctement un environnement ici et non aller plus loin en fait que juste la visu en fait des différents outils. Pour administrer trois outils qui me sont fournis nativement, le gestionnaire de serveur, premier outil que nous allons voir juste après, la console MMC avec les différents composants que je vais pouvoir intégrer et mon tableau de bord Windows Essential, le tableau de bord Windows Essential qui est fourni nativement avec un Windows 2012 Essential, mais également qui est installable sur un serveur standard ou un data center. Pourquoi pas. Mon gestionnaire de serveur, l'intérêt du gestionnaire de serveur ici, c'est de pouvoir, sur un seul écran, avoir une vue générale de mon serveur, avoir éventuellement une vue rapide des différentes erreurs en fonction du groupe dans lequel je suis, et pourquoi pas également lister tous mes serveurs physiques et mes serveurs virtuels. Le gestionnaire de serveur n'est pas monoserveur. Le gestionnaire de serveur permet de voir en une seule fois 2, 3, 10, 15, 20 serveurs et d'avoir une visualisation qui va s'adapter en fonction des serveurs. Dans le gestionnaire de serveur, directement depuis le gestionnaire de serveur, nous aurons une organisation avec la partie gauche, en fait la partie exploration. Quand je suis sur un serveur, j'aurai directement, en faisant un clic droit sur mon serveur, toute une série d'opérations réalisables. Opérations réalisables en fonction du serveur sur lequel je suis. C'est-à-dire que si je suis sur un serveur DHCP, il va me proposer le gestionnaire DHCP. Si je suis sur la partie DNS, il me proposera la partie DNS. Si je suis sur un serveur qui a de l'Active Directory, il me proposera la partie Active Directory, tout simplement. Donc depuis ce gestionnaire de serveur, je pourrais réaliser des opérations sur une machine distante, je pourrais redémarrer et arrêter un serveur éventuellement, mais je pourrais depuis ce gestionnaire de serveur ajouter à distance des rôles dans une machine ou éventuellement dans un VHD. Dans gestionnaire de serveur, nous avons la pertinence d'action en fonction de la machine sur laquelle je suis. Là, je suis sur un serveur DNS, il me propose gestionnaire DNS, gestionnaire DHCP. Si je change de machine, je passe sur le compte Romain. Je vois que d'un seul coup, en fait, en bouton droit, je n'ai pas les mêmes opérations désormais. J'ai domaine approbation Active Directory, j'ai plus la partie DHCP par exemple. Le gestionnaire de serveur, on va pouvoir à l'intérieur organiser les machines. Organiser les machines, nous avons des groupes qui sont créés automatiquement en fonction des rôles mis en place sur le serveur, mais je vais pouvoir créer mes propres groupes en fonction de mes attraits d'administration. En fonction de mon organisation, en fonction d'un emplacement géographique. Je vais avoir d'un seul coup tous les serveurs basés sur le site du siège social, par exemple. Je vais pouvoir créer un groupe siège social en spécifiant les serveurs que je vais mettre à l'intérieur. On va le voir juste après. Donc le premier outil, le gestionnaire de serveur, qui va très loin dans toute l'administration, qui me permet de tout faire. Par contre, attention, le gestionnaire de serveur ne sait pas tout administrer. L'administration de différents composants ne peut se faire qu'en passant par des composants logiciels en fichables avec la MMC, Microsoft Management Console. Dans cette MMC, quand je vais démarrer le produit, je vais demander à ajouter un composant et je vais choisir sur quel élément je veux travailler. Le choix des éléments, je vois ici sur la partie gauche que j'ai choisi toute une série de composants, comme un DNS, un dossier partagé, une machine locale, une machine distante. Et je vois après coup que ma console répertorie tous les composants. Et je pourrais travailler assez rapidement sur mes composants. Mon troisième outil, ici, troisième outil qui est le Windows Essential tableau de bord. Ce tableau de bord ici, nouveauté 2012 R2, est installable sur une version standard, une version data center, en plus de Windows 2012 Essential. L'avantage en fait de ce composant, c'est qu'il va me permettre en fait de faciliter l'administration sans être obligé de travailler sur 15 millions de consoles. Inconvénient, si on peut dire, c'est que ce composant ne peut administrer que le serveur sur lequel il est installé. Ici. Donc dans ce tableau de bord, on pourra gérer, on a une partie accueil, une partie dédiée utilisateur, une partie de gestion des périphériques, une partie pour gérer le stockage, en particulier les dossiers auxquels les personnes pourront accéder, ici, et une partie application. Application, c'est récupérer sur le site Pinpoint chez Microsoft, éventuellement des applications que je rajouterai dans mon tableau de bord. On va regarder en fait comment utiliser le gestionnaire de serveur, comment utiliser en fait Windows Essential. Juste avant, je vous propose qu'on aille vérifier en fait où en sont nos installations. Les installations par rapport à l'élément précédent. Alors lui, il n'a pas fini. Ah, je vais prendre mon MVA standard. Donc le MVA standard ici, c'est la machine sur laquelle je suis passé de l'interface graphique à l'interface minimale. Donc ici, je vais aller me connecter dessus. Donc je suis comme sur un serveur core, sauf qu'ici, je peux taper la commande MMC. J'ai bien l'accès en console MMC. Je peux également utiliser ici le gestionnaire de serveur. On voit bien censé. Par contre, le voilà. Donc j'ai bien mon gestionnaire de serveur. C'est ici, je suis entre un serveur core et un serveur en fait en mode graphique. Donc je peux réussir à faire beaucoup de manipulations, mais je n'ai pas accès, par exemple, à iExplore. Ici, ce n'est pas une commande reconnue. Alors qu'en mode graphique, j'y ai accès sans aucun souci. Donc en fait, ici, on a les installations qui sont passées correctement. Mon installation d'interface, en fait, n'est pas terminée. Donc on reviendra dessus après. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est dans mon infrastructure, j'ai fait mes installations, mes types d'installation. J'aimerais, pourquoi pas, pouvoir gérer, utiliser mon gestionnaire de serveur. Pour ça, je vais partir de ma machine physique. Mon gestionnaire de serveur sur mon serveur physique ici, j'ai déjà un ou deux serveurs qui sont mis en place. Depuis gestionnaire de serveur, dans mon tableau de bord, comme je disais tout à l'heure, on a directement la possibilité ici d'ajouter des rôles et des fonctionnalités, d'ajouter d'autres serveurs à gérer, ce que je ferai après coup. Je vois d'un seul coup tous les composants qui fonctionnent ou éventuellement qui sont en erreur, pourquoi pas, avec la possibilité directement d'avoir les différents événements. Dans mon gestionnaire de serveur, on voit des groupes mis en place automatiquement en fonction des rôles que nous rencontrons sur nos différents serveurs. Ici, j'ai deux serveurs, j'aimerais ajouter un troisième serveur. Ajouter en fait un serveur sur lequel plus tard je serai amené à gérer du stockage, par exemple. Donc je vais demander à ajouter un autre serveur. Cet autre serveur ici me propose de le voir dans mon domaine. J'ai la possibilité de choisir en fonction des OU de domaine. Je peux travailler en fonction des OS, en fonction d'un nom. Je vais dire, vas-y, trouve-moi toutes les machines disponibles dans mon domaine. Et je vais récupérer une machine qui s'appelle MVA Stock. Cette machine, je veux la voir apparaître, je veux la gérer. OK. Donc le système, dans tous les serveurs, je vois apparaître la troisième machine. Sur cette troisième machine directement, j'ai accès à tous les composants. Cette machine ici n'a qu'une partie gestion de stockage, donc je n'ai pas de nouveaux groupes qui vont apparaître. Par contre, ici, moi, l'organisation me plaît, mais j'aimerais créer un nouveau groupe pour les serveurs, par exemple, qui ne font que du stockage, ou pour les serveurs du site principal, ou de mon agence principale. Pour ça, j'ai la possibilité, dans la partie gérée, de créer un groupe de serveurs. Créer un groupe de serveurs que je vais appeler serveur de stockage. Hop. Et sur les serveurs de stockage, je vais dire que je vais mettre mon serveur, mon contrôleur domaine et le serveur que je viens d'ajouter. Je peux les ajouter directement. OK. J'ai ma partie serveur de stockage qui apparaît avec mes deux serveurs, avec les événements dédiés à mes serveurs. Sur mes serveurs ici, je veux les administrer. Quand je mets sur un serveur, je fais un bouton droit. Je trouve les fonctionnalités, en fait, dédiées à ce serveur. Si je me mets sur le contrôleur domaine, je vois apparaître d'autres composants. Donc ici, j'ai une administration qui va me permettre de travailler. Par contre, dans gestionnaire de serveur, des choses que je ne peux pas faire directement, c'est par exemple sur la partie DNS, pourquoi pas, sur mes serveurs DNS, je n'ai pas la possibilité d'administrer directement. L'administration de mes serveurs ne peut se faire que en, par exemple, en utilisant le gestionnaire DNS. Oui, mais le problème, c'est que j'ai deux serveurs DNS, j'ai X serveur DHCP, ainsi de suite. J'aimerais avoir tous ces serveurs sur une seule et même console. Donc, soit je passe sur le gestionnaire de serveurs, je démarre une console, mais j'aurai la console de la machine sur laquelle je suis. Soit, deuxième solution, je vais me créer ma console personnalisée qui va me permettre, tout simplement, d'ajouter les machines qui m'intéressent. Pour ça, ici, je vais tout simplement utiliser l'outil qui s'appelle MMC, Microsoft Management Console. Et quand je vais démarrer cet outil, oui, je vais me retrouver ici avec une interface qui va être vide. Dans cette interface, je vais tout simplement, mois après coup, ajouter les différents composants que je vais vouloir utiliser. Voici mon interface. Et dans l'ajout de composants, je vais avoir le choix des composants qui vont m'intéresser. Hop. Ça demande 2 secondes. Tous les composants disponibles. Je veux gérer des serveurs DNS. Je prends mon service DNS. J'ajoute. Je veux gérer, alors ici le service DNS, en fait c'est au sein du service DNS que j'ajouterai mes différents serveurs. Je veux ajouter les dossiers partagés par exemple. Quand j'ajoute les dossiers partagés ici, il me demande les dossiers partagés gérés par qui. Soit par l'ordinateur local, ce que je vais faire. Soit également géré, pourquoi pas, par un autre ordinateur qui s'appelle DC2012. Donc comme ça, je peux ajouter ici tous les composants disponibles. Une fois que j'ai ajouté mes composants, OK. Je vois mon service DNS sur mon serveur actuel. Si je veux mettre un deuxième serveur d'ici, je pourrais établir une connexion. Par contre, mes dossiers partagés, je vois les dossiers partagés locaux et les dossiers partagés de mon deuxième serveur. Donc en fait, l'administration gestionnaire de serveur va me permettre d'ajouter des rôles, des fonctionnalités, va me permettre d'ajouter, de voir tous mes serveurs qui m'intéressent. La console me permet d'aller voir sur une fonctionnalité particulière, son paramétrage. Pourquoi pas? Donc ce sont deux premiers outils ici que l'on rencontre en fait sur la version standard, la version data center, au niveau des composants, également sur la version essential. La version essential, elle, a en plus, je vais annuler ici, a en plus en fait une troisième possibilité d'administration, possibilité d'administration qu'on peut rajouter sur un de nos serveurs. Exemple ici, sur mon serveur physique, je veux ajouter le tableau de bord essential. Je vais ajouter des rôles et des fonctionnalités. Sur mon serveur en local, et sur ce serveur, je vais pouvoir dire je veux ajouter l'expérience Windows Server Essential. Donc l'expérience Windows Server Essential, c'est faire en sorte d'avoir les outils d'administration comme si j'étais sur un serveur Essential. L'outil d'administration d'un Essential, à quoi... Comment va-t-il se caractériser? Je vais revenir sur mon contrôleur domaine que je vais mettre en plein écran dans mon tableau de bord. Donc ici, le tableau de bord, en fait, c'est l'outil tableau de bord Windows Essential, tout simplement. Qui arrive. On va attendre qu'il se charge. Voilà. Donc ce tableau de bord, en fait, avec une partie d'accueil, avec la possibilité d'obtenir les mises à jour en fait, des produits, d'ajouter les comptes utilisateurs, en fait, directement ici, une partie initiale de manipulation. Je peux directement ici gérer mes utilisateurs. Donc il y a récupération de mes utilisateurs en fait de mon domaine. Je peux afficher les propriétés, je peux créer directement un compte ici. C'est-à-dire que je vais pouvoir administrer mon serveur sans être obligé de connaître les consoles de gestion Active Directory. Je vais pouvoir consulter les différents périphériques. Donc j'ai mon contrôleur domaine en fait ici avec son état. Si je veux qu'une machine en fait vienne se connecter à mon infrastructure, il me propose de voir comment connecter. Donc ici, je ne vais pas y aller. Comment connecter? En fait, c'est sur la machine distante. Je vais donner un HTTP sur mon serveur, /connect, tout simplement. Je vais pouvoir gérer le stockage. Gérer le stockage, en particulier, c'est voir où les utilisateurs en fait, vont récupérer leurs documents, en fonction des profils. Et je retrouve une partie applicative. C'est-à-dire qu'ici, on a un outil d'administration, on va dire minima, pour travailler sur mon infrastructure. C'est clair qu'ici, hein, je suis sur une partie essential. L'essential, en fait, 25 utilisateurs, 50 périphériques. Partie essential, n'a pas besoin de calc client, ici. Cette partie est installable sur un serveur standard ou data center, si éventuellement je veux faire quelques, on va dire, configurations assez rapides. Il n'a pas fini mon installation, donc on reviendra plus tard dessus. J'ai un serveur. Mon serveur Mon serveur ici, nous avons géré le type d'installation, core, graphique, interface minimale, éventuellement expérience utilisateur. Nous avons des outils d'administration, mais ces outils, en fait, ne me permettent pas de réussir à faire de l'automatisation très rapide. Pour réussir à faire l'automatisation, nous avons différents outils qui vont nous donner un coup de main. Ces différents outils pour l'automatisation, ici, deux grands types d'outils, les outils Microsoft, avec outil Microsoft, le planificateur de tâches, que nous irons voir. Autre outil d'automatisation ici d'action, ce sont les GPO, les stratégies de groupe. Stratégie de groupe soit dans un domaine, soit stratégie de groupe local. Tout ce qui est script, dans le terme scripting ici, on va englober les fichiers BAT, les VBS tels qu'on les connaissait avant, mais également le PowerShell, puisque c'est du scripting avec des évolutions. Autres outils qui vont me donner un coup de main ici sont tout simplement des outils comme Opération Manager pour la supervision et l'automatisation de la réparation, Configuration Manager pour automatiser le déploiement des applications, Virtual Machine Manager pour automatiser le déploiement des machines virtuelles, d'une plateforme VM de machines virtuelles, puis après des outils tiers en fait que l'on peut être amené à utiliser pour travailler. Le premier outil qui nous intéresse ici, le planificateur de tâches. Le planificateur de tâches en fait a évolué entre Windows XP 2003 et Windows Vista, a évolué sur deux points, c'est que nativement désormais dans le planificateur de tâches, nous avons toute une série de tâches préfournies en fonction des rôles qui sont mis en place. Et dans ce planificateur de tâches également, ce planificateur de tâches est administrable depuis le planificateur de tâches, mais également depuis des outils tiers. Exemple, je veux, lorsqu'un événement survient, faire en sorte qu'une tâche particulière se réalise. Plutôt que de passer par le planificateur de tâches, j'irai dans l'observateur d'événements et je demande à associer à un événement une tâche particulière. La création d'une tâche, donc soit se fait sur le planificateur de tâches avec les options complètes, sur lesquelles on verra les notions générales, qui va exécuter par exemple, déclencheur, à quel moment la tâche réalise-t-elle, l'action réalisée, des conditions d'exécution. Également, on voit apparaître ici, depuis l'observateur d'événements, la possibilité sur un événement de joindre une tâche à l'événement. La différence entre les deux, c'est que la première, je crée une tâche avec possibilité de mettre plusieurs actions, plusieurs déclencheurs. Dans la deuxième solution, je vais créer une tâche avec des configurations minimales et je pourrai après coup repersonnaliser. C'est un premier outil. Le deuxième outil qui va nous permettre d'automatiser les opérations, Windows PowerShell. PowerShell ici, c'est le successeur de l'invite de commande. C'est le successeur, mais c'est une interface ligne de commande et en même temps, c'est un langage de script. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir scripter tous les composants, sachant que nous avons un langage objet. PowerShell est fourni depuis Windows 7. Donc, on a eu du PowerShell V1. À l'heure actuelle, nous sommes en PowerShell V4. Donc, dans ce PowerShell, au fur et à mesure des versions, de nouveaux composants apparaissent. Pour intervenir sur PowerShell, il y a des syntaxes à connaître, des syntaxes en fait ici qui vont travailler sur deux terminologies. Première terminologie en fait ici, un verbe, get, start, stop, list, toute une série d'éléments. Puis derrière, un nom en fait de commande, un nom de service. Donne-moi les commandes. Un get-process, donne-moi les process. Après coup, ici, mes différentes syntaxes que je vais être amené à utiliser, je vais pouvoir, sur la même ligne, les mettre côte à côte, en les pipant, tout simplement. PowerShell. Nous avons eu un PowerShell en fait initial, où il fallait connaître la ligne de commande, la syntaxe complète. Puis nous avons eu dans PowerShell, en fait ici, PowerShell ISE, Integrated Scripting Editor. Cet outil, en fait, PowerShell ISE, va me permettre, dans la version 2012 R2, d'avoir non seulement les commandes que je tapais, mais ici, en plus, d'avoir de l'aide. D'avoir de l'aide en disant, je tape une commande, il me propose directement dans PowerShell ISE toutes les commandes commençant par le même nom, puis quand je suis sur la commande, il va me donner, juste à côté, en fait, la syntaxe de la commande. Avec possibilité également, on le verra après, directement de choisir la commande et d'avoir une aide en fait de sélection des composants. Donc une partie en fait d'automatisation grâce au planificateur de tâches. Dans le planificateur de tâches, je vais pouvoir réaliser, exécuter des exés, mais exécuter des scripts PowerShell. pour réussir à automatiser les opérations, et surtout ici, alors on n'est pas sur l'automatisation de création d'utilisateurs par exemple, on est plutôt sur l'automatisation de gestion de l'environnement utilisateur. Donc pour ça, on va pouvoir créer des objets stratégie de groupe, des GPO. Des GPO, on pourra en créer aussi bien en local, sur une machine non connectée à un domaine. On pourra en créer sur des machines non connectées à un domaine, mais on pourra créer également des GPO directement au sein d'un domaine. L'avantage des GPO, c'est que je vais pouvoir paramétrer, automatiser le bureau, l'environnement de l'utilisateur. Ici. Deux types de GPO ici. Nous avons une GPO provenant d'un domaine, dans laquelle on voit apparaître une configuration d'ordinateur, une configuration d'utilisateur. Mais surtout, on voit apparaître ici deux éléments, les stratégies de groupe et également ce qu'on appelle les préférences. Les préférences, c'est la possibilité, par exemple, de faire un paramétrage Internet Explorer. C'est faire des paramétrages, rajouter des raccourcis rapidement, sans passer par des scripts tels qu'on faisait avant. Juste à côté, on voit apparaître en fait la GPO locale sur une machine. On voit toujours ordinateur utilisateur. Par contre, ici, en fait, on n'a pas la notion de préférence qui est dédiée à l'Active Directory. Pour réussir à automatiser, j'ai les outils qui me sont fournis dans Windows. Mais je vais avoir également toute une série d'outils fournis grâce à System Center. System Center 2012, ce n'est pas un produit, c'est une suite de 8 produits. 8 produits qui vont permettre aussi bien de gérer le déploiement, de gérer les inventaires, que d'automatiser les réparations, mais également au final, en fait, grâce à un produit qui s'appelle Service Manager, d'avoir un portail d'accès pour que les personnes puissent faire des demandes. Et Service Manager fera appel aux autres produits de la suite pour automatiser les opérations. Dans System Center 2012, Configuration Manager, qui me permet de gérer les ordinateurs physiques et virtuels, de gérer des postes clients Windows, des postes clients tablettes, des postes clients téléphone, mais également, pourquoi pas, des tablettes Linux, des tablettes Android plutôt, des tablettes iOS, pourquoi pas. Je vais pouvoir gérer mes applications et déployer les applications sur tous ces environnements. Je vais pouvoir également, depuis Configuration Manager, remplacer un serveur de mise à jour, un serveur WSUS, puisque Configuration Manager peut déployer les correctifs de sécurité également. L'outil Opération Manager qui, lui, va me permettre de faire de la supervision, mais avec réparation automatique. Supervision, environnement Microsoft toujours, environnement non Microsoft, les systèmes Linux appartenant à ce qu'on appelle la cross-platform, et tout ce qui est équipement de réseau, tout ce qui est équipement de routage. Toute la supervision dans Opération Manager, l'automatisation, se fait grâce à l'exploitation de Management Pack. Management Pack que les constructeurs peuvent nous fournir, qu'on peut acheter, mais également Management Pack que l'on peut générer. Troisième outil d'automatisation qui, lui, va automatiser la création des machines virtuelles, l'outil VMM. L'outil VMM qui est un outil qui permettra de gérer aussi bien des serveurs Hyper-V que des serveurs Xen Server et des serveurs VMware éventuellement. Alors, VMM permet d'automatiser la gestion des machines virtuelles par un déploiement plus ou moins rapide des VM. VMM permet également, pourquoi pas, de faire du provisioning de serveurs physiques. C'est-à-dire qu'avec VMM 2012, on va pouvoir déployer un serveur Hyper-V parce que j'ai un manque de serveurs physiques. Avec VMM 2012 R2, je pourrais déployer toujours des serveurs Hyper-V, mais en plus déployer des serveurs de fichiers au sein, en fait, de mon infrastructure. VMM travaille soit sur un modèle d'ordinateur. Modèle d'ordinateur, c'est que je déploie une machine virtuelle à la fois, c'est, et pas plus. Ou on pourra travailler ici sur ce qu'on appelle des modèles de service. Un modèle de service, c'est je veux déployer en simultané un contrôleur main, un serveur SQL, un serveur web. Plutôt que de déployer trois machines côte à côte et de les paramétrer, le modèle de service pourra me permettre de faire cette opération automatiquement. VMM permet également de gérer des clouds privés Microsoft. Outil d'automatisation qui interconnecte tous les outils entre eux, qui permet d'administrer de l'Active Directory, qui permet de gérer en fait beaucoup de choses. L'outil Orchestrator. Orchestrator, c'est l'outil pour automatiser et ordonnancer les tâches. Donc dans Orchestrator, on va exécuter ce qu'on appelle des runbooks, qui pourraient correspondre à un script éventuellement. Hein. Mais surtout, on pourra dire, cette opération ne se réalisera que si telle condition est réunie, en particulier. Pour réussir à automatiser, que va-t-on trouver comme composant ici? Donc on va travailler sur deux composants ici tout simplement, hein, le planificateur de tâches et la partie PowerShell. Ben, notre planificateur de tâches, Nous allons prendre le planificateur de tâches local. Dans le planificateur de tâches local, nous avons des bibliothèques de tâches en fait, qui nous sont fournies. Bibliothèques en fonction des produits installés. Là, par exemple, Microsoft Anti-Malware, c'est par rapport à Endpoint Protection, l'équivalent de MSE. Dans la partie Windows, composants mis en place en fonction des rôles que j'ai sur mon ordinateur. Si je veux créer une tâche planifiée ici, pour créer une tâche planifiée, soit je pourrais créer une tâche de base. Une tâche de base, c'est une tâche sur laquelle je dis un déclencheur, une action que je peux personnaliser. Soit je peux créer une tâche, et sur cette tâche ici, on va trouver une information générale. Quel compte sera utilisé pour exécuter la tâche? Est-ce qu'on exécute même si quelqu'un est connecté ou pas? On peut masquer la tâche. Et nous avons surtout ici une notion de déclencheur, avec possibilité dans le déclencheur de spécifier des déclencheurs à une heure programmée, ouverture de session d'une personne particulière. Donc toute une série de déclencheurs. Mais également, je vais pouvoir sur une tâche, non pas se créer une action, mais réaliser autant d'actions que je souhaite. Action par défaut, c'est démarrer un programme. Nous avons des actions ici qui sont désormais dépréciées. L'action d'envoi de mail et l'envoi en fait d'un message qui en a NetSend. Donc ici, on va surtout démarrer un programme. Programme qui peut être un exécutable ou qui peut être éventuellement un script PowerShell. Alors attention, on va le voir juste après. L'exécution d'un script PowerShell, d'un fichier .ps1, requiert que sur la machine, l'exécution des scripts PowerShell soit autorisée. Si l'exécution des scripts PowerShell n'est pas autorisée, vous aurez beau demander à exécuter l'action, cette action ne se réalisera jamais. Donc ici, c'est soit je crée une tâche à partir de mon planificateur de tâches, soit deuxième solution, si je veux créer une tâche, j'ai la possibilité de créer une tâche depuis l'observateur d'événements. Et depuis cet observateur d'événements, je vais prendre par exemple le journal d'application. Je veux, quand cet événement survient, en fait, être prévenu. Directement ici, je peux faire un bouton droit, joindre une tâche à l'événement. La différence avec précédemment, c'est que je n'aurai qu'un seul déclencheur. Quand cet événement survient, je réaliserai une opération, et pas plus, au niveau des composants. Donc là, c'est un moyen en fait, d'automatisation que l'on trouve en standard avec le planificateur et avec l'observateur d'événement qui me crée la tâche. Si je veux réussir à faire des tâches planifiées, la meilleure solution qu'on va avoir après coup, c'est de faire du PowerShell. Faire du PowerShell ici, PowerShell existe en deux modes, soit un PowerShell normal, alors je vais l'exécuter en tant qu'administrateur ici, soit je suis sur un PowerShell normal. Le problème du PowerShell normal, c'est qu'ici, il faut que je connaisse exactement la syntaxe qui m'intéresse. Même si on a un outil de complétion en tapant get-c, j'aurai la get-commande, je ne vais pas avoir ici tous les composants. C'est-à-dire que je n'ai pas tous les paramètres qui apparaissent derrière. Si sur la commande qui s'appelle get-commande, je veux avoir de l'aide sur les paramètres possibles, je peux écrire tiret et mettre les différentes options possibles. Donc je peux lui dire par exemple, j'aimerais que tu me donnes toutes les commandes dont le verbe qui est la première partie en fait de la commande, c'est la commande get par exemple. Donc ici il me ressort toutes les commandes en fait PowerShell avec un get dans le système. Le problème c'est qu'ici, c'est bien, mais si je veux réaliser un script PowerShell complet, ça va être un peu plus compliqué. Je vais faire un bloc-notes et je vais écrire dedans. Deuxième solution, plutôt que d'utiliser en fait cette partie de PowerShell, ici, je vais pouvoir utiliser un deuxième outil qui m'est fourni nativement en Windows 2012. En Windows 2008 R2, il fallait l'installer. Je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle PowerShell ISE. Je vais l'exécuter en tant qu'administrateur toujours. PowerShell ISE, ici, c'est une interface qui va me permettre d'un seul coup de pouvoir écrire tout le script qui m'intéresse et l'exécuter en un seul tenant. L'avantage, c'est qu'ici, quand je vais taper une commande, directement cette commande tapée, j'ai fait un get-c, il me propose toutes les commandes, commençant par le get-c. Donc si je prends un get-commande, alors je vais le refaire de cette façon-là, hop, si je prends ma commande ici, alors, en faisant un tiret, je vois que j'ai toute la structure qui apparaît derrière. L'avantage, c'est qu'ici, je vais faire un get-commande, donc verbe get. On a directement en fait la syntaxe qui est colorée en fonction des types de mots que j'écris. Je vais pouvoir lui faire un get, pourquoi pas, tiret help. Je veux de l'aide sur la commande get-commande ou get-certificate. Je vais écrire tous les composants. Toutes les commandes que je vais écrire ici, si je veux qu'une commande en fait utilise le résultat d'une autre commande, ces commandes vont pouvoir être en fait associées grâce à un pipe. Après, hein, j'ai toute une série de possibilités de scripting complet au sein de mon PowerShell. Je veux taper des commandes, mais ici, je n'ai pas envie d'être obligé d'écrire à la main les différents éléments. Ce que je peux faire dans le PowerShell ISE, c'est je vais ajouter ce qu'on appelle le composant additionnel de commande. Et ce composant additionnel de commande me propose toutes les commandes possibles, toutes ces commandes possibles ici en standard. Les commandes que nous avons en PowerShell nous sont fournies en fonction de ce qu'on appelle des modules. Les modules en fait qui vont rajouter une série de commandes. Par exemple, sur une machine, vous n'avez pas le serveur Hyper-V, donc vous n'avez pas toutes les lignes de commandes dédiées Hyper-V. Je peux importer un module pour avoir les commandes Hyper-V. Donc ici, soit je prends parmi toutes les commandes, soit je prends parmi les commandes en fonction de mon composant, par exemple Hyper-V. Et je vais pouvoir, dans ces éléments, prendre les lignes qui m'intéressent. Si je veux sur de l'Hyper-V, par exemple, je peux lui dire « J'aimerais que tu me donnes les informations pour convertir un VHD. Je ne sais pas comment le convertir, j'ai besoin de le faire. Ben » ici, je peux demander à afficher les détails. En affichant les détails, j'ai la commande et j'ai tous les composants que je vais devoir mettre avec les attributs obligatoires en particulier. Donc si je veux réussir à automatiser mon environnement, mon administration, je peux passer par le planificateur de tâches, bien entendu. Je peux faire du PowerShell en exécutant, en réalisant des scripts, des fichiers .ps1, des scripts. Attention, si je réalise des scripts PowerShell, il faut penser à ce que les scripts PowerShell soient exécutables sur une machine à distance. Donc ici, il faudra mettre en place en fait la stratégie d'exécution grâce à une commande qui s'appelle set-exécution policy. Une fois que j'ai ça, si ces composants d'administration d'automatisation ne me conviennent pas, ne me suffisent plus, ben chez Microsoft, on pourra passer aux outils de la gamme System Center. Premier outil qu'on pourra utiliser dans System Center, c'est la gamme le produit Orchestrator. C'est un des produits, on va dire, les plus simples à mettre en place avant d'aller au-delà. Après coup, on pourra exploiter du Configuration Manager, de l'Opération Manager, toutes ces technos. Ce qu'il faut savoir sur la gamme System Center, c'est que System Center a un mode de licence qui est strictement le même que la licence Windows 2012. C'est-à-dire que nous avons une version standard, une version data center, qui est gérée en fonction du nombre de machines virtuelles. Donc après, à moi de choisir l'outil qui me permettra d'administrer, le type d'installation que je vais avoir et les moyens d'automatisation que je vais vouloir mettre en place. Une fois que j'aurai choisi ces composants, ou éventuellement même en amont, je pourrai après coup passer sur la partie déploiement de mon environnement, qui sera vu dans le module d'après.